France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. I can't breathe. J'étouffe. Les derniers mots de George Floyd, asphyxié par un policier blanc le 25 mai dernier à Minneapolis, ces mots servent aujourd'hui de ralliement à une immense vague d'indignation qui déferle aux États-Unis et qui trouve un large écho jusqu'en France et en Europe. Indignation vis-à-vis des violences et des injustices dont les Noirs américains et d'autres minorités sont victimes. Indignation vis-à-vis de l'impunité dont bénéficient le plus souvent les policiers américains. Indignation à l'égard d'un président qui veut incarner la loi et l'ordre et qui, sans manifester la moindre empathie, sans jamais en appeler à l'unité nationale, creuse davantage encore les divisions au sein de son pays dans l'espoir de remporter ainsi sa réélection. Voilà Trump, une Bible à la main, qui cherche à consolider ses soutiens évangéliques. Voilà Trump qui menace de déployer l'armée fédérale pour mater la contestation, au risque d'être contredit et même dénoncé par son ministre de la Défense et l'élite militaire du pays. Aujourd'hui, le mouvement s'apaise, mais ne faiblit pas, un mouvement largement multiracial, et pas seulement afro-américain, dans une Amérique meurtrie par la Covid-19 qui continue de tuer et de miner l'économie. Est-ce un signe de vitalité démocratique ou au contraire, le spasme d'une société bloquée ? La colère d'aujourd'hui s'inscrit-elle dans la continuité d'une histoire américaine flétrie par le racisme ou évolue-t-elle sous l'effet de la pandémie et de la crise économique ? À 5 mois des élections, quel impact sur une campagne présidentielle plus ou moins confinée ? Sur la tactique des républicains embrigadés derrière Donald Trump et sur les chances de Joe Biden, le candidat démocrate. Le président américain cherche à détourner l'attention par un activisme brouillon sur le plan international. Quelles conséquences pour l'Europe ? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous, Denis Lacorne. Bonjour, vous êtes directeur de recherche aux séries de Sciences Po et vous enseignez tous les ans à Stanford en Californie. Merci à Pape Ndiaye. Bonjour Pape, vous êtes professeur des universités à Sciences Po Paris. Pierre-André Chiappori, vous enseignez l'économie à l'Université Columbia et heureusement pour nous, vous avez été confiné à Paris, donc merci d'être avec nous à distance. Et Sarah Rosenblum, vous êtes chercheuse en santé publique et en sciences politiques à l'Université du Michigan. Pape Ndiaye, le carnage américain, c'est l'expression que Donald Trump avait utilisée lorsqu'il a prêté serment en janvier 2017, pour caractériser l'Amérique de Barack Obama, qui était juste en face de lui à ce moment-là de la cérémonie. Ce carnage, on a bien l'impression, 10 jours après l'assassinat de George Floyd, que c'est le carnage de l'Amérique de Trump.
Oui, c'est vrai que Donald Trump avait fustigé le bilan d'Obama au moment d'entrer en fonction, d'une façon d'ailleurs très peu diplomatique. Et quand on compare la situation d'aujourd'hui à celle de janvier 2017, évidemment, la comparaison ne tourne pas en faveur de Trump. Bien sûr, l'épidémie de Covid mondiale, cela, il n'y pouvait pas grand-chose, mais le manque de préparation, la réaction chaotique et très tardive de l'administration américaine a de la vie générale aggravé les choses, à quoi il faut ajouter une crise économique et sociale d'une ampleur inédite depuis la Grande Dépression. À la crise sanitaire, à la crise économique, s'ajoute maintenant une crise politique avec des grandes manifestations qui ont lieu dans tous les États-Unis depuis une grosse semaine et qui font effectivement de la situation actuelle une situation tout à fait inédite. On est là dans une fin de mandat qu'on peut sans doute qualifier de cauchemardesque pour les États-Unis.
On a vu ces manifestations au début s'accompagner de pillages, de violences. Cette violence s'est calmée, mais la mobilisation ne faiblit pas. Et ce qui frappe par rapport à l'histoire des mobilisations noires aux États-Unis, une longue histoire hélas, c'est que cette fois, elle est très largement multiraciale.
c'est vrai, il y a des violences, mais au fond, tous les grands mouvements charrient avec eux leur lot de pilleurs, de casseurs, de provocateurs, que sais-je. Ce qui est fortement caractéristique de ce mouvement national aujourd'hui, c'est en effet que par contraste avec les manifestations de Ferguson en 2014, ou bien les grandes manifestations de la fin des années 60, des émeutes de 67 et 68 en particulier, là, le monde africain-américain est accompagné de larges segments de la population américaine blanche qui, en solidarité, participent à ces manifestations de façon très régulière. Il y a là quelque chose d'inédit et qui peut rappeler d'ailleurs les manifestations des droits civiques au début des années 1960. C'est sans doute l'originalité, la caractéristique du mouvement actuel, y compris d'ailleurs dans des villes où la population africaine-américaine est très réduite. Prenez Seattle, par exemple, où la population africaine-américaine ne dépasse pas 3%, ou Burlington, dans le Vermont, où elle est également extrêmement réduite. Il y a là quelque chose d'inédit qui place pour la première fois, sans doute, la question des violences racistes de la police américaine au centre de la politique américaine, au lieu d'être en marge, une question réservée aux Noirs américains dont on ne s'occupait pas trop jusqu'à présent.
Est-ce qu'il y a une nouvelle cartographie de ce mouvement par rapport aux mouvements antérieurs?
Alors, on retrouve à la fois la carte ancienne, qui est celle des années 60, c'est-à-dire la carte des villes à forte population africaine-américaine, voire majoritaire, qui se sont mobilisés, je pense à Chicago, évidemment, au lieu de mobilisation politique pour les Noirs, mais aussi Detroit, dans le Michigan, des villes aussi comme dans l'Ouest, Los Angeles, ou bien Oakland, dans la baie de San Francisco, dans l'Est, New York, Philadelphie, dans le Sud, Birmingham, Montgomery, les grandes villes des droits civiques dans les années 60, Atlanta également. Donc ça, c'est une carte familière, la carte du monde noir et de son activisme politique. Mais s'ajoute à cette carte des villes qui n'ont pas l'habitude d'être au premier plan de ces formes de mobilisation, des villes comme Denver, par exemple, dans le Colorado, des villes aussi du Wyoming, de l'Idaho, des villes assez éloignées du monde africain-américain, qui, elles, quand on regarde les villes, quand on regarde ces mobilisations, on retrouve là une autre carte qui est plutôt la carte des mobilisations universitaires. C'est la carte des villes où des universités importantes sont installées, aussi des colleges, des liberal arts colleges sont installés un peu partout aux États-Unis. Ça recoupe assez bien les plus fortes mobilisations. Donc là, on a des étudiants, parfois qui ont plus de temps en ce moment avec le Covid que d'habitude. Également des lycéens. Il y a des villes, par exemple dans le Vermont, où les lycéens ont pris l'initiative de lancer des mobilisations en lien d'ailleurs avec ce qu'ils avaient pu faire l'année dernière au moment des manifestations pour l'environnement. Donc il y a là une Amérique qu'on pourrait qualifier de libérale, en fait, qui prend part à ces manifestations et qui s'ajoute à la première carte dont j'ai parlé, qui est celle de la population africaine-américaine. Donc tout ça ensemble, ça dessine un paysage qui est d'ampleur nationale et qui est, à mon sens, inédit depuis le début des années 60.
Denis Lacorne, vous connaissez admirablement les États-Unis. Quelle sensation vous procure cette image aujourd'hui d'une Maison Blanche barricadée, protégée par des panneaux de bois et quasiment du fil de fer barbelé, et derrière un président qui veut, depuis le début de son mandat, incarner la loi et l'ordre?
Oui, on peut dire que en France, on appellerait ça un très bel exemple lorsque Trump apparaît la Bible en main devant la petite église épiscopalienne de Saint-John. L'alliance du glaive et du goupillon, Voltaire dirait l'alliance de l'empire et du sacerdoce. On a cette chose donc très très étonnante, qui est un président précédé par des troupes, des National Guard, qui vont pourchasser des manifestants pacifiques qui sont devant Lafayette Square, devant la Maison Blanche, vont les asperger de gaz lacrymogène, les terroriser avec des hélicoptères militaires qui volent en rase-motte. Et puis, il va apparaître, Bible à la main, comme un bâton ou quelque chose de plus militaire, entouré de militaires, dont le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées, Marc Milley, qui est en treillis. Et entre parenthèses, si on regarde avec cette Bible, il n'y a pas de religieux, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de soldats noirs. C'est là quelque chose de très étonnant.
On sait que Donald Trump a toujours aimé les parades. Il était en extase devant notre 14 juillet. Il doit être très déçu qu'on n'en ait pas cette année. Il se flattait d'avoir embauché, comme il disait dans son gouvernement, en tout cas au début, plusieurs généraux. Et on voit aujourd'hui que son propre ministre de la Défense et certains de ses généraux, notamment le général Mattis, un ancien prédécesseur d'Esper, on le voit qui contredit le président des États-Unis. Que veut dire cette rébellion de l'élite militaire face à un président qui a dû faire marche arrière, d'ailleurs, et qui voulait déployer l'armée contre ses propres concitoyens?
Oui, c'est sans précédent, c'est ce qu'on peut appeler cette rébellion des généraux. Mattis, surnommé le chien fou, qui a été le premier ministre de la Défense de Trump pendant 2 ans, et qui a dit de façon très très frappante, de tous les présidents que j'ai connus, que j'ai rencontrés, Trump est le seul président qui ne cherche pas à rassembler, mais qui cherche à nous diviser dans des circonstances donc dramatiques. Il reproche à Trump son manque de maturité. Il dénonce la militarisation de l'espace public, de la place publique, qui crée un faux conflit entre les civils et les militaires. Et il a raison de dire cela, parce que n'oublions jamais que l'armée américaine, telle qu'elle existe aujourd'hui, elle ne pourrait pas fonctionner sans les Africains américains, qui représentent entre 40 et 50% des militaires d'actifs. Donc, cette réaction est tout à fait justifié. Il dénonce aussi les abus du pouvoir exécutif. Et ce qui est intéressant, c'est que le ministre de la Défense lui-même, Mark Esper, qui est un civil mais qui est un ancien militaire, qui a été 11 ans dans l'armée américaine et qui essaye de bloquer, essaye de dire que ça n'est pas le moment d'invoquer la loi anti-insurrection de 1807 pour envoyer la troupe fédérale. Et ce qui est intéressant d'un point de vue historique, c'est que Esper, ministre de la Défense, donc 11 ans dans l'armée, a appartenu à la division aéroportée numéro 101, la 101e division aéroportée, oui, de l'armée américaine, laquelle division en 1957 avait été mobilisée par le président Eisenhower pour faciliter, permettre la déségrégation des écoles de l'Arkansas à Little Rock, contre la volonté du gouverneur de l'époque, Orval Faubus, qui lui utilisait la garde nationale pour empêcher la déségrégation. Et donc le président Eisenhower va mobiliser, mais on voit bien que c'est une circonstance très rare, les troupes fédérales pour en fait remplacer la garde nationale qui est renvoyée dans ses casernes et faciliter la déségrégation des écoles d'élèves noirs. Mais là, le point que font Mattis, que font Esper et d'autres qui critiquent Trump, dont par exemple Mullen, qui est l'ancien chef d'état-major interarmé, ou Thomas, qui est l'ancien commandant des forces spéciales, c'est que utiliser la troupe fédérale, ça doit être réservé dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, très très graves, comme celle de Little Rock en 1957. C'est pas quelque chose qui doit être rendu facile pour des prétextes les plus divers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été entendus. Trump est un peu privé de ses armes, si je puis dire, puisqu'il ne peut plus, ou il a accepté les critiques de Esper, son ministre de la Défense, et de ses autres généraux qu'on peut qualifier de généraux rebelles.
Pape Ndiaye, venons-en à la police américaine. Si j'ai bien compris, cette police est très largement sous l'autorité des États fédérés, des maires, parfois même des comtés. C'est une police où il y a énormément d'Afro-Américains. Comment s'explique cette violence dont les exemples abondent au cours d'une histoire raciale émaillée de crimes, et ce depuis la déségrégation?
Oui, la police ordinaire des États-Unis est sous l'autorité des municipalités. Ce sont des départements de police municipaux. Et l'État fédéral n'a pas la main directement sur cette police. Il y a une police fédérale, mais elle est réservée aux crimes et aux enquêtes judiciaires. C'est le FBI, le fameux FBI, et puis les US Marshals, mais c'est une police très spécifique. Donc la police de tous les jours, c'est une police sur laquelle l'État fédéral n'a pas la main. Et il est vrai qu'elle a changé depuis les années 60. Dans les années 60, c'était une police blanche, en fait, avait tenu en particulier par des groupes ethniques européens qui étaient beaucoup investis. Par exemple, les Irlando-Américains, les Italo-Américains composaient le gros des forces policières dans des villes comme Chicago, New York, Philadelphie, Boston. Et à partir de la fin des années 60, une commission fédérale a recommandé l'embauche d'Africains-Américains pour diversifier la police et faire qu'elle soit moins raciste. Et donc, un demi-siècle plus tard, on peut en faire un bilan. Il y a des études qui ont regardé l'effet de la diversité dans les corps de police municipaux pour conclure que ça n'avait pas changé grand-chose. Tant des vieilles habitudes de quadrillage des quartiers populaires, surtout des quartiers noirs, des ghettos noirs, des vieilles habitudes de culture policière avec les blagues racistes, avec les surnoms que l'on donne, y compris aux policiers africains-américains qui ont dû avaler pas mal de couleuvres. Tout ça fait que, dans l'ensemble, ça n'a pas tellement changé. Et d'ailleurs, on peut regarder la situation de ces dernières années, comme à Baltimore, par exemple, où un jeune homme était mort dans un fourgon de la police. Et parmi les policiers qui avaient été mis en cause à ce moment-là, eh bien, il y avait plusieurs policiers africains-américains qui ont donc été poursuivis pour des violences racistes. C'est dire si on peut parler aux États-Unis, en effet, de racisme institutionnel. C'est un moyen de parler de l'institution, de ce qu'elle fabrique comme pratique, au-delà du comportement des individus et parfois même au-delà de leur couleur de peau.
Ce qui frappe néanmoins dans le mouvement actuel, par rapport aux grandes manifestations, aux grandes émeutes du dernier demi-siècle, c'est que, fort heureusement, il n'y a pas eu de morts, alors qu'il y en a eu par dizaines précédemment. Et ce, malgré le surarmement, parce que la police est surarmée et les Américains eux-mêmes sont surarmés à un point inimaginable.
La police est plus armée aujourd'hui qu'elle ne l'était dans les années 60. Par exemple, en 67-68, il y a eu plus de 200 morts, dont l'immense majorité tués par des policiers dans les quartiers noirs où les émeutes avaient lieu. Aujourd'hui, on est très loin de cela. D'abord parce que les policiers ne pourraient plus tirer à vue comme ils pouvaient le faire à la fin des années 60. Une petite partie aussi de la police pose genoux à terre en solidarité avec les manifestants. Il y a donc là l'impossibilité d'ordonner des tirs ou des actions meurtrières contre les manifestants. Et puis, en lien avec ce que disait Denis Lacorne, il faut ajouter que du côté de l'armée, eh bien, les chefs militaires ont tracé une ligne jaune, en quelque sorte, en indiquant qu'ils n'étaient pas prêts à mobiliser l'armée. Et donc, il y a là aussi, du côté de l'armée comme du côté d'un certain nombre de départements de police, une forme de résistance par rapport à des moyens très violents que, éventuellement, Trump pourrait être tenté de mettre en œuvre ou d'encourager dans les semaines à venir s'il voulait que la situation se tende encore un peu plus et éventuellement en tirer avantage d'un point de vue électoral. Donc on est effectivement assez loin de la situation des années 60. C'est en partie dû donc à des formes de résistance, comme je disais, mais c'est aussi dû à la géographie de ces manifestations qui ont lieu pour la plupart d'entre elles dans les centres-villes, y compris dans les quartiers les plus huppés de New York, autour de la tour Trump, de Chicago sur Michigan Avenue ou de Philadelphie, par exemple, autour de Rittenhouse Square. On est très loin des ghettos noirs où les manifestations avaient lieu dans les années 1960, ce qui peut d'ailleurs occasionner des possibilités de pillage des magasins de luxe dans les quartiers concernés. Mais ça limite également, la population est plus diverse, venant de quartiers qui sont des quartiers différents, une population blanche importante, comme on disait tout à l'heure. Et puis, je pense que ça limite aussi le recours à la violence, par contraste, encore une fois, avec les années 60, où les ghettos noirs étaient bouclés par la police, qui avait une forme d'impunité ensuite pour la répression violente.
Pierre-André Chiappori, je rappelle que vous enseignez l'économie à l'Université Columbia à New York, et vous êtes resté parmi nous grâce, si j'ose dire, au coronavirus. Comment expliquer sur le plan économique et social cette explosion de colère qui, encore une fois, touche une Amérique assez élargie par rapport aux mouvements antérieurs?
Oui, alors, effectivement, il y a eu un événement particulièrement dramatique et qui avait une connotation raciale très forte. Et ça, c'est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Mais il y avait un tel amas de poudre qu'on s'attendait quand même à ce qu'une explosion se produise. D'abord, c'est en immédiat arrière-plan, il y a le Covid qui a eu un impact très fort sur les minorités en termes de mortalité. Hein, la mortalité, enfin, on en parlera tout à l'heure, je pense, mais la mortalité des Noirs américains est beaucoup plus élevée que celle des Blancs. Non pas que les hôpitaux soient racistes, mais parce qu'ils ont plus de chances d'être les frontline workers, ils ont moins de chances d'avoir une couverture maladie, et puis surtout, ils ont beaucoup de comorbidités. Mais le deuxième impact de la crise, qui est la crise économique, là encore a frappé spécialement plus durement les minorités, les Afro-Américains et surtout les minorités hispaniques. Mais derrière
les
tout
hispaniques,
ça,
pardon, je vous interromps, qui semblent encore plus frappés sur le plan du chômage en particulier et l'absence de filet social.
Sur le plan du chômage à court terme, on va voir ce qui va se passer quand l'économie va lentement redémarrer. Mais en arrière-plan de tout ça, il y a l'évolution de la société américaine au cours des 50 dernières années et l'extraordinaire augmentation de l'inégalité. Et ça, si vous voulez, le paradoxe, c'est que d'un point de vue économique, les phénomènes raciaux, les disparités raciales ont plutôt diminué. Le pourcentage de Noirs vivant, enfin de Noirs américains, d'Afro-américains vivant dans la pauvreté a diminué depuis 50 ans. En termes de ségrégation, il y a toujours une ségrégation raciale, mais cette ségrégation a plutôt diminué. En revanche, ce qui a explosé, c'est la ségrégation sociale. C'est-à-dire que on a moins des quartiers noirs et des quartiers blancs, mais on a de plus en plus des quartiers riches et des quartiers pauvres. Alors évidemment, les deux sont corrélés parce que les Afro-Américains font partie des minorités qui ont les perspectives économiques les plus mauvaises. Et juste pour ajouter quelque chose là-dessus, une chose dont on ne se rend pas compte, c'est que l'image des États-Unis, mais y compris l'image que les Américains eux-mêmes se font de leur société, repose beaucoup sur l'idée d'une « land of opportunities », c'est-à-dire… Certes, c'est une société très inégalitaire, mais en contrepartie, c'est une société dans laquelle il y a beaucoup de mobilité sociale, tout est possible, vous pouvez être en bas de l'échelle et vous avez toutes les chances d'arriver en haut. Bon, ça, c'est un mythe. C'était peut-être vrai dans la première moitié du XXe siècle, encore qu'on n'ait pas vraiment les données qui nous permettent d'en être sûr, mais c'est plus vrai. En fait, quand on regarde en termes de mobilité intergénérationnelle, les États-Unis sont, avec la Grande-Bretagne, le pays le moins mobile de tous les pays développés. Moins que la France, moins que l'Allemagne, évidemment beaucoup moins que les pays d'Europe du Nord. Il y a des land of opportunities, mais c'est le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc. Mais cette idée de l'Amérique comme endroit d'ascension sociale, de société dans laquelle l'ascenseur social fonctionne bien, c'est complètement faux. Je voudrais juste citer un chiffre qui m'a beaucoup frappé. On a des données extraordinaires aux États-Unis qui ont été développées par l'Université de Michigan. On a des panels dans lesquels on suit plusieurs milliers de ménages depuis 50 ans. Si vous prenez la génération née en 1940 et vous vous demandez quelle est la probabilité que les enfants gagnent plus que leurs parents, qui est vraiment un indicateur un peu primaire mais finalement significatif de progression sociale ou économique intergénérationnelle. Pour la génération née dans les années 40, c'est 90% plus. Maintenant, c'est 50%, et les 50% se situent pour l'essentiel en haut de la distribution des revenus. Les perspectives de progrès social, non seulement à l'intérieur d'une vie, mais même d'une génération à l'autre, se sont pratiquement arrêtées pour les Américains en bas de l'échelle. Alors, il y a toute une analyse, il y a des centaines d'articles qui ont été consacrés là-dessus. L'une des explications les plus fréquentes, c'est en termes de capital humain. C'est-à-dire, il a toujours été important d'avoir une éducation, mais l'éducation aux États-Unis actuellement est beaucoup plus importante qu'elle ne l'était il y a 30 ans. Et justement, les taux d'éducation sont plus faibles dans les minorités, en particulier chez les hommes noirs d'ailleurs, parce que il y a une énorme différence économique entre les hommes et les femmes de ce point de vue-là.
Et ce, dans un pays où l'éducation supérieure en particulier coûte horriblement cher, au point d'endetter des générations d'étudiants. Denis Lacorne, venons-en à l'impact politique à 5 mois des élections, qui ne sont pas que présidentielles, hein, il faut toujours le rappeler, il y a toutes sortes de postes éligibles qui sont en jeu. Vous citiez d'entrée tout à l'heure cette image qui nous paraît choquante et qui a d'ailleurs choqué une bonne partie des Américains de ce président Trump à l'abri de la foule par la troupe et qui tient une Bible qu'il n'a pas ouverte et n'a pas prié. Quelle était l'utilité politique de ce qu'on appelle dans le jargon médiatique une photo op? En fait, c'était pour la photo, mais c'était pour rassurer qui?
C'était pour rassurer deux blocs électoraux qui sont en léger déclin, d'après les derniers sondages, qui ne sont pas acquis comme ils l'étaient en 2016. Celui des évangéliques blancs, d'une part, qui en 2016, plus de 80% des évangéliques blancs votaient pour Trump, ce qui était considérable. Et celui des catholiques, en particulier les catholiques conservateurs, c'est un groupe électoral aussi important. Et là, les derniers sondages qui existent montrent qu'il y a, c'est des sondages qui concernent ce que vous approuvez ou non la gestion de Trump, là, il y a un déclin important chez les évangéliques, on est passé de 80% approuve à 65%, et un déclin net aussi chez les catholiques conservateurs. Donc là, ça crée une inquiétude, et il essaye de contrer cela en apparaissant avec sa Bible, et en allant ensuite, après l'église épiscopalienne de Saint John, il se rend ensuite au sanctuaire de Jean-Paul II, qui détient d'ailleurs des reliques de Jean-Paul II, des reliques même qualifiées de reliques de première classe. Il s'agit d'un petit tube dans lequel il y a du sang de Jean-Paul II. Il est allé là aussi pour rassurer les catholiques, mais tout ça fait très cousu de fil blanc. Il en fait trop d'une certaine façon, c'est énorme. Alors, pour la droite américaine, pour Fox News, qui est la télévision préférée de Trump, on compare Trump à Churchill, intervenant au milieu du Blitz sur une maison effondrée qui avait été détruite par l'aviation allemande. Mais la comparaison est énorme et monstrueuse.
Absurde.
Et cette comparaison a d'abord été mise en place par le service de presse de la Maison-Blanche et repris par Fox News. Et puis, d'autre part, il y a les réactions plutôt hostiles maintenant d'un certain nombre de leaders protestants, même d'évangéliques, comme Pat Robertson, qui estime que ce président manque de compassion, n'est pas suffisamment écuménique, et a oublié que dans les moments difficiles de la vie américaine, eh bien, quelquefois, on fait des prières qui sont interconfessionnelles, comme l'a fait Bush, par exemple, Bush fils, après le 11 septembre, l'attaque contre les deux tours de New York. Bush visitait des mosquées, il réunissait des rabbins, des imams, des prêtres et des ministres du culte ensemble. Donc il y avait une tentative de faire de l'interreligieux, alors que Trump, lui, c'est tout sauf l'interreligieux. C'est moi-même Trump, la Bible et la Bible fermée.
Qu'en est-il, Denis Lacorne, au sein même du Parti républicain? On a vu qu'une sénatrice, la sénatrice républicaine de l'Alaska, a dit que le général Mattis avait raison de critiquer le président. Et il y a, je crois, un seul sénateur républicain noir, le sénateur de Caroline du Sud, qui lui aussi a critiqué cette photo avec la Bible. Mais qu'en est-il du cœur du Parti républicain?
Vous avez raison, ce qu'on appelle le cœur ou la base du Parti républicain n'a pas vraiment bougé. C'est-à-dire que c'est un bloc très très solide de à peu près 40% d'électeurs très conservateurs, surtout dans les États, ce qu'on appelle la ceinture de la rouille, les États qui sont décisifs pour l'emporter au collège électoral. Et là, l'opinion n'a pas vraiment bougé. Mais Trump ne peut pas être réélu s'il n'arrive pas à mordre un peu sur l'électorat centriste, sur des indépendants, mais qui peuvent être favorables aux républicains. Et il risque de perdre des blocs entiers du vote républicain, c'est-à-dire des évangéliques, des catholiques, mais aussi des femmes qui sont devenues de plus en plus hostiles à Trump, et des résidents des banlieues favorables à Trump en 2016 et moins favorables aujourd'hui parce que un peu écœurés par la mauvaise gestion, les incohérences de la présidence Trump. Le drame de Trump, c'est qu'il pensait être réélu facilement sur des roulettes, si je puis dire, puisque l'économie allait bien, le plein emploi était réalisé, et la crise du Covid a été une catastrophe pour lui, qu'il a mal géré. Donc les crises s'accumulent les unes sur les autres, crise de l'économie aussi, et il essaye de se rabattre sur une espèce de réinterprétation de ce que faisait Nixon, le président de la loi et de l'ordre. Donc c'est ce qu'il essaye de faire, mais il faut jamais oublier que Nixon était face à un président sortant qui était Johnson, et Johnson c'était le président du chaos, des échecs, des manifestations partout. Et alors on peut se demander, certes c'est bien d'essayer de Nixon, mais peut-être que le rapprochement qu'on devrait faire, c'est avec Johnson, un président en fin de parcours qui n'arrive pas à gérer le chaos. Est-ce que Trump, ça n'est pas cela? Et c'est l'objet d'un livre assez amusant qui vient de sortir, rédigé par un journaliste du Atlantic, qui s'appelle Trumpocalypse. On assisterait à ce nouveau phénomène qui serait Trumpocalypse.
Qu'en est-il des encouragements aux suprémacistes blancs? On avait vu ça en 2017 à Charlottesville. Les encouragements aussi à tous ceux qui s'opposaient au confinement dans plusieurs États du Sud et du Centre. Et qu'est-ce que c'est que les Antifa qui, dans la narration utilisée par Donald Trump, seraient en fait le noyau dur du mouvement d'indignation actuel? Qu'est-ce que c'est?
Oui, alors ça, c'est d'abord, je dirais, une entreprise de diversion utilisée par Trump, parce que prétendre que les organisations ou les émeutes auraient été organisées, dans le fond, par les antifas, c'est un mensonge et au mieux une exagération, parce que les antifas...
Antifas, ça veut dire antifasciste, hein, c'est ça?
Antifasciste. Antifasciste, dans la tradition de l'antifascisme de l'Allemagne nazie ou de l'antifascisme tel qu'il existe encore en France ou en Allemagne. Mais les antifas sont souvent des anarchistes, ils sont très peu organisés, ils n'ont pas de leader, ils sont très peu nombreux aux États-Unis, quelques centaines, peine. On les trouve plutôt sur la côte ouest des États-Unis, par exemple à Oakland ou dans l'Oregon. Leur principal rôle, c'est pas de confronter systématiquement la police, c'est de dénoncer ou de contrer des manifestations des suprémacistes blancs, qui eux sont beaucoup plus nombreux que les antifas et qui sont armés. Il faut rappeler que le meilleur moyen de comprendre ce que c'est que les antifas, ce sont les émeutes de Charlottesville en 2017, où on a face à face le KKK, le Ku Klux Klan, des néo-nazis, des milices armées avec des armes automatiques qui font face à des étudiants progressistes et des petits groupes d'antifa qui sont contre le fascisme. Et qu'est-ce qu'ils ont en face d'eux? Des gens qui ont des drapeaux nazis, des veillées au flambeau dans la tradition saxonne qui existe dans l'Allemagne nazie, des armes, et quelqu'un, et finalement, il y aura une femme qui est tuée par un suprémaciste blanc qui va l'écraser avec sa voiture. Donc là, les antifas ont eu un rôle très très faible. Ils ont d'ailleurs protégé certains groupes noirs qui étaient là contre les suprémacistes. Et le vrai danger, les vrais terroristes, si vous voulez, c'était les suprémacistes blancs. Et le scandale en 2017, lorsque cela se passe à Charlottesville, et le prétexte était une statue d'un général de la Confédération des États du Sud, un général donc favorable à l'esclavage, bien sûr, Eh bien, Trump, lorsqu'on lui dit devant, on lui demande de commenter ces événements, va dire « Oh oui, mais oui, dans le fond, c'est vrai, il y a des suprémacistes et des antifas, mais je trouve qu'il y a des gens très bien chez les suprémacistes. Donc, il a fait indirectement l'apologie du suprémacisme blanc, ce qui évidemment était choquant à l'époque. Et donc, prétendre que tout est organisé aujourd'hui par des antifas, par George Soros, qui serait leur financier, fait partie des thèses conspirationnistes qui prolifèrent aux États-Unis. Et entre parenthèses, dans l'Idaho, aujourd'hui, vous avez des patrouilles de résidents locaux qui protègent la ville et les petites villes contre, notamment la ville de Cœur d'Allen, contre l'arrivée d'agitateurs extérieurs qui seraient des antifas. Et c'est totalement mythique, qui n'existe pas, il n'y a pas d'antifa à Cœur d'Allen. Et ça, ce sont des thèses conspirationnistes qui circulent sur les réseaux sociaux aujourd'hui aux États-Unis.
Pape Ndiaye, je sais que vous devez nous quitter dans pas longtemps. Une dernière question pour vous portant sur le Parti démocrate. Vous nous disiez au début de cette émission que c'est la carte de la contestation actuelle couvre aussi de grandes villes universitaires, grandes ou petites d'ailleurs. Et Joe Biden est le candidat centriste qui a donc défait lors des primaires démocrates les deux candidats qui semblaient portés par une jeunesse plus à gauche. Jusqu'à quel point est-ce que ce mouvement aujourd'hui complique la tâche d'un Joe Biden qui paraît confiné en plus du fait de la pandémie et dont on ne peut pas dire qu'il ait jusqu'ici brillé par son esprit d'à-propos, même si, mardi dernier, dans un discours de circonstance, il en a appelé au réveil de la conscience américaine face à ces manifestations.
Oui, il me semble en fait que Joe Biden, au fond, voit sa tâche presque facilitée par les événements actuels. Dans la mesure où il a emporté, en effet, sur ses deux candidats plus, sur les deux candidats aux primaires plus à gauche, en particulier Bernie Sanders, il a encore emporté un peu in extremis en Caroline du Sud grâce à une mobilisation, je le rappelle, des Africains américains qui comptent beaucoup en Caroline du Sud. Et avant même la crise actuelle, il avait déjà dû gauchir son programme en incorporant des éléments du programme de Bernie Sanders, par exemple relatif à la dette étudiante et à d'autres choses comme cela. Joe Biden, de ce point de vue-là, avait bien avant la crise tiré les conclusions de 2016 lorsque Hillary Clinton avait écarté Bernie Sanders et ses propositions pour choisir un coalitier centriste. Et donc, ce qui se passe actuellement, me semble-t-il, ne peut qu'aller dans le sens, au fond, d'une, on pourrait presque dire, d'un virage à gauche, en quelque sorte, de Joe Biden, en tout cas, du fait que des questions qui, jusque-là, étaient marginales, vont se trouver en position importante dans son programme, en particulier, évidemment, la question policière, la question judiciaire dont on parle tant à l'heure actuelle. Et donc là, il me semble que cette nouvelle centralité des Africains-Américains dans la vie politique américaine, ou en tout cas des préoccupations des Africains-Américains dans la vie politique, elle peut jouer à l'avantage de Joe Biden parce qu'il a besoin d'une mobilisation massive des Africains-Américains s'il veut l'emporter en novembre. Les Africains-Américains composent un électorat qui est un électorat très fidèle au Parti démocrate, encore plus maintenant. Trump ne va pas beaucoup mordre sur cet électorat, encore moins qu'en 2016. Le problème, c'est plutôt celui de la participation électorale, de la mobilisation de cet électorat. Et donc, il me semble que avec les événements actuels, la mobilisation africaine-américaine n'est pas garantie, mais en tout cas, elle est très, très fortement encouragée. Et puis, il me semble enfin que son discours de mardi, avec sa tonalité présidentielle, le remet un peu dans la carte. Il était un peu confiné dans le sous-sol de sa maison de Wilmington. mais au fond, il a tenu le discours que Trump aurait dû tenir. Il a tenu un discours de rassemblement, à la fois de justice, mais aussi d'apaisement. Il a tenu un discours qui, au fond, en fait un président crédible, pas forcément enthousiasmant, mais en tout cas un président vers lequel, le cas échéant, les Américains pourraient se tourner.
Merci, Pape Ndiaye. Partons maintenant pour Chicago. Vous rejoindre, Sarah Rosenblum. Je rappelle que vous êtes chercheuse en santé publique et en sciences politiques à l'Université du Michigan. Chicago, où vous êtes toujours confinée sous l'effet de la pandémie. Et c'est une ville aussi où il y a eu d'énormes manifestations.
Oui, tout à fait. Le déconfinement aurait dû intervenir cette semaine. Avec la réouverture des parcs, des lieux non essentiels, mais il a été reporté pour cause de manifestations et parce que la pandémie est encore très vive, le virus est actif et on n'a pas encore atteint le pic épidémique. Pour vous donner quelques chiffres, depuis le début de la crise sanitaire, à peu près 47 000 personnes ont été contaminées par le virus à Chicago et 2188 personnes en sont décédées, dont 975 étaient africaines-américaines et 650 hispaniques. Donc on le voit, les Noirs ont été frappés de manière disproportionnée par le virus à Chicago et dans le reste du pays, puisque en Louisiane, par exemple, 70% des personnes mortes du virus sont africaines-américaines, alors qu'elles ne représentent qu'un tiers de la population. Donc, si vous le voulez, je peux expliquer pourquoi, quels sont les facteurs de surmortalité de cette communauté.
Oui, alors justement, il y a évidemment des maladies, et ça, on l'a vérifié aussi dans nos pays, qui prédisposent à la morbidité de ce coronavirus.
Oui, tout à fait. Sur le plan de la santé, c'est ce que disait l'un des précédents intervenants, la surmortalité de la communauté africaine-américaine, elle est en partie due à leurs antécédents médicaux d'origine socio-économique, hein, puisque c'est une communauté qui est affectée par des maladies chroniques de type obésité, diabète, asthme ou hypertension, dont on sait qu'ils sont des facteurs de surmortalité en ce qui concerne le coronavirus. Mais il y a d'autres facteurs structurels qui expliquent cette surmortalité, à commencer par le fait que, on en a parlé, hein, mais sur le plan socio-économique, les Noirs et les Hispaniques sont surreprésentés dans des quartiers ségrégés, marqués par la pauvreté, l'insécurité alimentaire. Ils vivent parfois dans des logements multigénérationnels, où se côtoient plusieurs classes d'âge, ce qui favorise la propagation du virus, hein, auprès de personnes âgées et fragiles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Chicago notamment, les Africains-Américains ont eu un accès limité aux hôpitaux et aux centres de dépistage, ce qui a considérablement retardé.
Pourquoi ?
Premier soin, ils vivent dans des quartiers dans lesquels les services de santé sont assez limités. Et surtout, ce qu'on a observé à Chicago, mais également dans d'autres grandes villes américaines, les centres de dépistage ont d'abord été ouverts dans des quartiers blancs, aisés, parce qu'en fait, on manquait au départ de données, ou alors elles n'ont pas été rendues publiques, ou elles n'ont pas été collectées de manière systématique, et des données qui auraient pu mettre en lumière la rapidité de propagation du virus dans les quartiers pauvres et peuplés par des minorités ethniques. Donc parfois, ça résulte d'un choix délibéré de la part des autorités publiques. Parfois, c'est simplement un manque d'informations qui lui-même peut être délibéré ou peut traduire une inertie des pouvoirs publics concernant le fait de savoir quelle population il fallait prioriser et quelle population était plus vulnérable face à la propagation du virus.
Qu'en est-il, Sarah Rosenblum, des aides sociales? On a vu qu'il y a eu des paquets, comme on dit en anglais, importants, votés par le Congrès, et une ruée vers ces aides sociales qui ont évidemment visé prioritairement les populations noires et hispaniques.
Tout à fait. Alors, ces aides sociales, on s'en rappelle, hein, le CARES Act notamment, qui a débloqué plusieurs milliards de dollars en faveur des Américains, des hôpitaux, des entreprises, qui en fait n'ont pas encore, dont ils n'ont pas encore totalement bénéficié, hein, puisque beaucoup de ces aides n'ont pas encore été perçues par les personnes qui ont perdu leur emploi, qui se trouvent en difficulté, qui ont perdu leurs moyens de subsistance ou dont les proches ont pu décéder du coronavirus. Et donc la situation est assez difficile. Par exemple, à Chicago, les autorités municipales ont peu agi en matière sociale. Je sais que la municipalité de Chicago a essayé d'identifier quelques 1000 familles jugées particulièrement vulnérables pour leur accorder des aides financières, mais c'est très peu au regard des besoins de la ville et des populations.
Il faut rappeler néanmoins, Sarah, que la maire de Chicago est d'origine afro-américaine. Et c'est aussi la ville d'Obama et c'est la ville où la fondation Obama travaille prioritairement.
Fait. Vous avez raison de souligner cela. Alors, je peux évoquer les manifestations des derniers jours et ce que l'on a observé qui est très paradoxal, très ambivalent, notamment de la part de la maire de Chicago, Lori Lightfoot, qui a décidé, puisqu'on craint une propagation du virus intensifiée à cause des manifestations, elle a décidé de rendre gratuits les tests de dépistage. Elle demande à toute personne ayant participé aux manifestations de se rendre dans un centre de dépistage, quel que soit leur état de santé, s'ils manifestent des symptômes ou pas, ce qui est une avancée majeure puisque jusqu'à présent ces tests étaient peu accessibles et n'étaient pas gratuits pour tous. En revanche, elle a également décidé de suspendre les programmes d'aide alimentaire aux familles pauvres et aux enfants qui ne vont plus à l'école au motif qu'il était dangereux de les maintenir à cause des manifestations, alors même que le lien de causalité est assez flou. Si je puis me permettre. Donc on observe des réactions qui sont assez étonnantes et qui ne concernent pas simplement la ville de Chicago, mais également à Los Angeles, par exemple. Le maire de la ville a fait fermer les centres de dépistage en guise de représailles, en quelque sorte, pour sanctionner les personnes qui avaient participé aux manifestations.
Pierre-André Chiappori, si on en vient à l'analyse macroéconomique, j'ai été frappée de voir, je crois que c'est dans le Financial Times hier, publié avec le Peterson Institute, un sondage mensuel, je crois, qui analyse la réaction des Américains par rapport à l'action économique de l'administration Trump. Et d'après ce sondage publié hier ou avant-hier, pour 48% des Américains, Donald Trump a aidé l'économie et pour 41%, il ne l'a pas fait. Et les 48% en question, c'est en fait le taux le plus bas depuis le mois de novembre. Est-ce que cela veut dire que même sur le plan économique, et on voit évidemment l'impact massif de la pandémie, la récession américaine qui s'accentue, est-ce que cette pandémie va coûter à Donald Trump sa réélection?
Il est difficile, évidemment, de faire des prévisions. Hein. Dieu sait qu'on a été surpris dans le passé. Mais certainement, la stratégie de Trump au cours de ses deux premières années, parce qu'il a commencé à travailler à sa réélection le lendemain de son élection, voire même avant, mais sa stratégie, c'était d'apparaître comme un président qui avait eu une excellente performance économique. Et c'est vrai que historiquement, un président sortant qui se présente pour une réélection dans une économie qui marche bien, il a énormément de chances d'être réélu. Il n'est pas tout à fait sûr que dans le cas particulier de Trump, cette stratégie aurait pu marcher parce que l'économie a globalement bien marché, mais les endroits où elle a eu plus de difficultés, c'était justement des électeurs qui avaient plutôt voté Trump en 2016 dans des États qui étaient plutôt des États sensibles, ce qu'on appelle des swing states. En tout cas, la crise du coronavirus a mis fin à tous ces calculs parce que l'économie américaine va plonger dans les mois qui viennent. Elle a déjà commencé à plonger. On va avoir une récession. Le taux de chômage, c'est des taux de chômage à 20%. On a 40 millions de chômeurs aux États-Unis. C'est des taux qu'on n'avait jamais vus depuis la dépression des années 30. Même la récession de 2008 était très inférieure à ça. Donc la situation économique est catastrophique. Alors évidemment, ce n'est pas directement la faute de Trump, mais d'un autre côté, la réaction de l'administration américaine a mis en évidence un manque total de leadership du président, du point de vue sanitaire, parce qu'il a trop tardé à prendre les mesures, du point de vue économique, etc. Donc, je pense que ça explique quelque chose qui a été dit précédemment, à mon avis très justement, qui est que Trump maintenant doit renoncer à la stratégie je suis le candidat qui fait que l'économie marche bien. Je suis un chef d'entreprise avec moi l'Amérique, l'économie américaine va fleurir. Ça c'est fini. Donc maintenant il est obligé de se rabattre sur quelque chose qui est je suis le candidat de la loi et de l'ordre. Et là je pense qu'il a beaucoup moins de chance. Un dernier mot là-dessus, on parlait beaucoup de Biden et en particulier des problèmes que pouvait avoir Biden pour attirer les voix des démocrates plutôt, les voix démocrates plutôt de gauche, les gens qui étaient favorables à Bernie Sanders, à Elizabeth Warren et les gens comme ça. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. C'est un problème qui me paraît beaucoup moins grave maintenant qu'il y a 4 mois. Parce que on est arrivé à un point dans lequel tout sauf Trump devient une sorte de moto, de bandière, qui est tout à fait propre à attirer l'électorat démocrate. Donc j'ai beaucoup moins d'inquiétude sur une éventuelle incapacité de Biden à rassembler l'électorat démocrate. Et il faut se souvenir qu'une des choses qui ont... Hillary Clinton a été battue de très peu, il s'en est fallu de quelques dizaines de milliers de voix dans les swing states, et l'un des problèmes qu'a eu Hillary Clinton, c'est une difficulté à mobiliser la totalité de l'électorat démocrate. Grâce aux excès de Trump, je pense que la mobilisation sera beaucoup plus facile.
Un mot encore, Pierre-André Chapory. On voit que les grandes entreprises américaines, à peu près toutes les 50 plus grandes entreprises, ont exprimé leur soutien aux manifestations en cours et ont exprimé aussi leur refus du racisme, y compris en leur sein. Alors, il y a une part d'hypocrisie, il y a une part de marketing, surtout, évidemment, les entreprises qui ont besoin d'athlètes noirs pour leur publicité. Néanmoins, c'est très nouveau, cela.
Oui, je pense que ça... Vous avez raison, mais je pense que ça traduit une évolution générale de la société américaine qui fait qu'on n'est plus dans l'Amérique des années 70 ou 60-70. En fait, le racisme reste apparent dans certaines franges de la population. Bon, c'est évident avec les extrémistes et les suprémacistes blancs. Il est clair aussi que la police a, ou en tout cas certains policiers, ont ici ou là des attitudes clairement racistes. La société américaine me paraît beaucoup moins raciste qu'il y a 30 ou 40 ans. Il y a deux composantes. Je pense que les gens sont authentiquement moins racistes. Et puis, il y a aussi le fait qu'il est beaucoup moins vendeur d'apparaître comme raciste. Donc, les entreprises ont parfaitement intégré cet aspect. Donc, en fait, il me semble que l'aspect racial, paradoxalement, est probablement moins important aux États-Unis qu'il ne l'était il y a un demi-siècle. En revanche, c'est l'aspect social, en particulier l'aspect des inégalités sociales qui devient dominant. Mais la société américaine, vous avez dit tout au début, la société américaine est-elle une société bloquée? Je pense que c'est une société assez largement bloquée, moins probablement du point de vue racial, mais plus qu'avant du point de vue économique.
Sarah Rosenblum, d'un mot, vous êtes de loin la plus jeune d'entre nous, vous représentez cette génération qui est beaucoup plus que nous accro aux réseaux sociaux. D'un mot, le rôle des réseaux sociaux dans le mouvement en cours avec Twitter qui s'est désolidarisé de son principal utilisateur, Donald Trump, contrairement à Facebook.
Oui, vous avez raison de souligner le rôle des réseaux sociaux dans le déclenchement également de ces manifestations, puisque plusieurs vidéos ont été postées hein, sur Twitter notamment, montrant, on s'en souvient, cet homme africain-américain qui se promenait dans Central Park à New York et qui a demandé à une femme blanche de mettre son chien en laisse dans un espace protégé, ce qu'elle a refusé de faire. Il l'a filmé, et elle prétendait être agressée par un noir américain au téléphone avec la police. Donc cette vidéo qui a été diffusée sur Twitter a suscité l'indignation de beaucoup d'internautes naturellement, et je pense qu'il a catalysé un petit peu ces manifestations, de même que la vidéo du meurtre hein, de George Floyd qui a également été diffusée.
Insupportable.
Et donc je pense que effectivement les jeunes noirs, les internautes ont joué un rôle prépondérant pour mobiliser le pays par le biais des réseaux sociaux. Toutefois, ce qu'il faut souligner, mais ça a été dit précédemment, ces manifestations, elles rassemblent des personnes de tout horizon, hein, des jeunes, des retraités, des blancs, des noirs, des hispaniques, auxquels s'ajoutent les nouveaux chômeurs, les étudiants un peu désœuvrés, mais naturellement très choqués par le racisme de la société américaine. Et je pense que, si je puis me permettre, ces manifestations vont au-delà de la dénonciation du racisme et des violences policières, bien qu'elles en constituent l'élément déclencheur. Je pense que ces manifestations cristallisent l'angoisse, la peur, les revendications des gens qui ont perdu leur emploi, qui sont sans assurance, qui ont perdu leurs moyens de subsistance ou des proches hein, au Covid. et qui expriment leur mécontentement, leur colère face aux autorités fédérales et parfois étatiques par le biais de ces manifestations. Je pense qu'elles sont très révélatrices des crises multiples qui traversent actuellement la société américaine.
Denis Lacorne, le mot de conclusion vous appartient. On voit que Donald Trump a tout à coup exprimé le désir de convoquer un G7 chez lui, et Angela Merkel a vigoureusement dit « nein ». À partir de ce moment-là, Trump a fait machine arrière, encore une fois. Pour nous autres, Européens, cette fin de mandat de Donald Trump, est-ce que c'est la caricature d'un certain style qui nous semble toujours détonnant et détonné par rapport à la tradition transatlantique?
Ben, je crois que c'est pas encore la Trumpocalypse dont je parlais tout à l'heure, mais souvenons-nous, Trump qualifie Biden de « Sleepy Joe ». Joe l'endormi. Or, cette accusation un peu grotesque risque de se retourner contre lui. Il y a des moments dans l'histoire des États-Unis où on préfère un président un peu endormi plutôt qu'un président qui est totalement chaotique et qui en fait trop. Et ça rappelle la fable de La Fontaine, les grenouilles qui voulaient un roi. Ces grenouilles avaient plusieurs options. L'une, c'était d'avoir un roi très calme, qui ne se mêlait pas trop de leurs affaires privées, c'était le soliveau que leur envoie Jupiter, et l'autre, c'était un roi actif et dynamique, ça a été la grue qui les a tués, mangés, croqués et gobés. Et je crois qu'entre entre la grue et le soliveau, les Américains aujourd'hui préfèrent un soliveau, et peut-être que soliveau, c'est Biden, mais un Biden qui serait quand même plus actif que ce que laisse entendre La Fontaine dans cette fable fameuse, les grenouilles qui voulaient un roi.
Eh bien, merci mille fois de nous permettre de terminer cette émission américaine sur une fable de La Fontaine. Merci à vous, Denis Lacorne. Je rappelle votre dernier ouvrage, Tous milliardaires, le rêve français de la Silicon Valley. Vous avez publié ça chez Fayard l'an dernier et chez Gallimard en 2016, La frontière de la tolérance. Merci à Pap Ndiaye. Vous allez, Pap, publier en octobre prochain un livre sur les Noirs américains et le droit de vote aux presses de Sciences Po. Merci à Sarah Rosenblum, qui est chercheuse à l'Université du Michigan en santé publique et en sciences politiques. Et je recommande un très bon papier que vous avez publié dans Le Monde le mois dernier sur l'impact du coronavirus sur le système de soins américain. Et je remercie vivement, bien sûr, Pierre-André Schiapori, professeur en économie à l'Université Columbia, à la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, à la technique, Anthony Thomasson. Hugo Boursier m'a aidé, comme chaque semaine, à préparer cette émission. Et comme chaque samedi, vous avez rendez-vous, bien sûr, avec Hervé Gardette. Très bon week-end sur France Culture et à samedi prochain.